Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
C'est la deuxième heure des grandes gueules du sport. On est heureux de vous accompagner en ce dimanche matin avec Julien Beneteau, Pascal Duprat, Jérôme Pinault et Christophe Cessieux. Dans un instant, les grandes gueules du sport vont prendre le large puisque Armel Lecléache sera en direct avec nous depuis son ultime Banque Populaire 11 alors qu'il dispute la Transat Café L'Or avec son coéquipier Sébastien Josse. Voilà, ils viennent de passer le poteau noir. Hein. C'est là où se rencontrent les vents de l'hémisphère nord, l'hémisphère sud.
Christophe, lui, c'est
plus pot-au-feu, ouais. Voilà.
Il accepte, Christophe, la vanne. C'est bien parfois de...
Sur la bouffe, j'accepte volontiers.
En même temps, il ne peut que l'accepter. On connaît son coup de fourchette. Hein. Vaut mieux l'avoir en photo qu'à table, monsieur.
Mais ça va être assez fou d'avoir Armel Lecléache dans ce moment un peu décisif. Hein,
pour avec Armel Lecléache, volontiers.
Ouais, des trucs yophilisés, là, sur le bateau.
Attention, les trucs yophilisés, pour avoir testé, c'est vraiment pas mal.
Ouais. C'est vrai ouais. Je me suis mangé un petit bœuf bourguignon yophilisé. Non, mais
très honnêtement, c'est les grands chefs qui sont à la base de cela et tu pourras leur demander. Ils sont pas en reste. C'est pas la grande cuisine, mais c'est pas.
Tu veux dire qu'on a progressé.
Évidemment qu'elle a progressé. Ah,
tu vas voir Top Chef 2035 qui sera yophilisé.
Ketchup et Cyril Ignac. Vas-y Cyril.
Allez, faites mieux. En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un smartphone Stellar X5S édition Chamonix Mont Blanc. C'est le nouveau smartphone outdoor de la marque française Crosscall. Pour remporter votre smartphone Crosscall, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. D'abord, les GG, le roi Stellar peut reprendre son trône aujourd'hui.
RMC, le ring des GG.
Classique de revers, c'est fini. Troisième titre majeur pour Yannick Sinner. Il est défait Zverev. Il n'a pas eu la moindre chance. 6-3, 7-6, 6-3.
Je suis très heureux d'être de retour. Ça a été une longue pause. Je me suis entraîné très dur, surtout en salle au début, puis en revenant sur le terrain.
Concernant Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, vous savez qu'il avait été pris dans une affaire de dopage. Il va être suspendu jusqu'au 4 mai après un accord avec l'AMA.
Oh, il finit sur un passif de coup droit, Carlos Alcaraz. Cette finale mythique, c'est incroyable. Il s'achève sur un winner. Il a déjà serré la main de l'arbitre Sinner et il va aller vers son adversaire, vers son bourreau. Alcaraz remporte Roland après avoir sauvé 3 balles de match.
5-4, 45, balles de match numéro 2 pour Yannick Sinner. Côté droit, elle est bonne. C'est un service qui est gagnant, c'est un service gagnant. Yannick Sinner remporte son premier Wimbledon. 4-6, 6-4, 6-4. Chapeau Sinner, il a vaincu les démons.
Let's go, Sinner, let's go. Eric, il est finale de Wimbledon. Pour lui, c'est en 3-7, c'est pas en 5-7.
6-4, il manque une mauvaise coupe. Il y a eu une mauvaise coupe, là.
Je pense pas.
Eric Sagnol nous a rejoint. Comment
ça s'est fait en direct. C'est juste sur la finale de Wimbledon, c'est pas grave.
On vient de se rendre compte, effectivement, qu'Eric Sagnol s'est planté sur son commentaire.
Non, mais il y a une mauvaise coupe, là.
Est-ce qu'on est sûr qu'ils l'ont joué 5-7? Est-ce que Sinner a vraiment gagné Wimbledon?
Non, c'est 4. À checker.
Et faire attention. Hein.
Alors, Sinner, qui a perdu, je vous rappelle, en finale de l'US Open il y a 2 mois face à Alcaraz. Ça lui avait fait perdre sa place de numéro 1 mondial à l'époque. Il occupait depuis 65 semaines au profit de son grand rival espagnol. Sinner, qui a une occasion en or de reprendre la tête en cas de succès aujourd'hui, ce serait une première pour lui en gagnant le Rolex Paris Masters. Finale à 15h. Ce sera à suivre avec toi, Eric, sur RMC. L'Italien sera opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime, 10e mondial. 2-2 d'ailleurs dans la confrontation entre les deux. Il s'est affronté en demi-finale de l'US Open. Hier, il a concassé le numéro 3 mondial Alexander Zverev, 6-0, 6-1. Sinner n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi parisien où Alcaraz, je vous rappelle, s'est fait éliminer dès son entrée en lice. Les GG, je vous pose la question ce matin sur le ring. Cette saison, plus qu'Alcaraz, Sinner mérite-t-il d'être numéro 1 mondial? J'ai 3 noms, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Et j'ai
Vu comme tu as posé la question, je dis non aussi, il ne le mérite pas plus qu'Alcaraz.
Bon, Sinner mérite-t-il d'être numéro 1 mondial? C'est la question qu'on se pose. Non à 60% pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous envoyez vos messages sur le WhatsApp 06 12 424 424. Eric Salio. tu as suivi la saison pour RMC. Tu es là, tu es avec moi.
Oui,
on va avoir du suspense jusqu'au bout pour la place de numéro 1 mondial.
Bah, je l'espère. Je l'espère parce que ce serait génial que tout se joue au Masters de Turin. Parce que faut expliquer aux gens que effectivement, Yannick Sinner, s'il gagne aujourd'hui, il sera numéro 1 mondial lundi. Mais cette place, il la reperdra au moment où débuteront les Masters. Donc moi, je veux qu'on juge sur la fin de saison. Quoi. C'est là que tout va se jouer. Et donc, il y a des chances que Sinner soit numéro 1 mondial en fin d'année. Et je trouve ça, je vous dis franchement, totalement anormal. Alors attention, c'est pas un scud que j'envoie à Sinner. Mais quand un gars rate 3 mois de la saison, c'est pas normal, entre guillemets bien sûr, qu'il soit encore en capacité de shipper le maillot jaune.
Il a raté 3 mois, il
fait pas de rapport entre
Sinner
et le maillot jaune.
Fignon Lemon. Ça me rappelle Fignon Lemon.
Eric, on rappelle, il a raté 3 mois parce qu'il était suspendu.
Il a loupé deux Masters.
Ils ont trouvé un accord pour que monsieur revienne.
Il a eu un arrangement de suspension.
Il a loupé 2 Masters 1000, c'est tout, pas de grand chelem. Et qu'aujourd'hui, les 250 et les 500 pour la course du numéro 1 mondial est bien moins importante qu'à l'époque des Sampras, Agassi et compagnie. Donc, il y a ça aussi. Donc, Eric a bien fait de rappeler que oui, demain, Sinner va être numéro 1 mondial au classement technique de l'ATP. Donc, sur les 52 dernières semaines, les 18 meilleurs résultats de Sinner, parce que c'est ça qui est pris en compte, les 18 meilleurs résultats de Sinner vont lui permettre de passer devant Alcaraz. Est-ce qu'il le mérite? Oui, le classement technique ne ment pas. C'est-à-dire que ça veut dire que sur les 52 dernières semaines, tu as été le plus fort. Et est-ce qu'il le mérite plus qu'Alcaraz à la fin de la saison? Non, parce qu'après le Masters, les deux, au vu de leur saison, ils le méritent. Ils ont gagné tous les deux 2 grands chelems chacun. Alcaraz a gagné certains tournois entre les grands chelems. Sinner fait une fin de saison exceptionnelle entre Vienne, là, Rolex Paris Masters. Et on va voir ce qui va se passer au Masters de Turin. Mais pour moi, les deux méritent d'être... Il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre. Parce que, on va dire, sur la morale, et je vais rejoindre Jérôme. Ok, mais je suis personne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a été contaminé. Enfin, en tout cas, il y a eu une substance interdite qui s'est retrouvée.
Un anabolisant, on le rappelle. Non, la défense de Sinner, c'est de dire c'est un prépa physique qui a utilisé ça.
Qui avait à l'époque, et on a eu la chance de le recevoir sur le plateau, M. Alvarez nous disait que la faisabilité de prouver l'innocence était très simple. Parce qu'il n'a pas fait Sinner. Quand même.
Donc je rappelle juste les titres, hein. Sinner, 2 titres du Grand Chelem, donc il a fait l'Open d'Australie et Wimbledon, il a fait les 4 finales du Grand Chelem cette année quand même, c'est un truc à souligner. Il a gagné également 2 titres en 500, ATP 500, Alcaraz, 2 titres à Roland Garros et à l'US Open, et 3 Masters 1000 pour lui. Christophe,
Je regarde juste les affrontements entre les deux garçons. Ils se sont joués 5 fois cette année. Et Alcaraz mène 4-1. Donc pour moi, c'est simple. Quand tu bats 4 fois ton adversaire,
il a perdu qu'une fois.
Voilà.
Il aurait dû perdre Roland.
Ouais, mais bon, ça a été un match incroyable.
Il a pas gagné Masters 1000 cette année.
Tu peux pas prétendre finir numéro 1 mondial sans gagner Masters 1000. Et pourtant, il est dans la course. Mais pour finir numéro 1 mondial, il faut gagner Masters 1000. Alors, il va gagner peut-être cet après-midi. Il en aura un. Et puis, ça va se jouer au Masters. Ce qu'il faut espérer, c'est que Alcaraz et Sinner se retrouvent en demi ou en finale du Masters.
Pascal, Sinner, pour toi, il mérite pas forcément d'être numéro 1 mondial?
Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y avait, bon, vous l'avez dit, vous le dites tout doucement, en chuchotant.
Non, mais t'inquiète, j'ai pas parlé.
C'est pour ça que c'est apparemment pour la fin.
Apparemment, il y a plus qu'une suspicion, puisque même s'il y a eu une suspension concertée, il a malgré tout été suspendu. Donc à partir de ce constat-là, je pense que pour cette saison en tout cas, j'aurais préféré qu'il soit deuxième. Exactement. Je ne veux pas de mal, encore une fois.
Même pas deuxième. Ce qu'il méritait le plus en 2026, c'est d'être suspendu une saison. C'est tout. Point final. C'est quand même.
J'irai pas jusque là.
Moi, j'irai jusque là.
Non, mais Jérôme, il faut contextualiser. Tu viens d'un sport, le cyclisme, effectivement. Mais on est très dur, médiatiquement aussi avec les cyclistes bien quand sûr, ils sont attrapés par la patrouille. Toi, tu voudrais qu'on soit aussi dur avec Sinner. C'est ça le fond de ta pensée.
Exactement. Moi, je mets juste face à face deux cas. On va imaginer que le numéro un mondial du cyclisme, Tadej Pogacar, soit en début de saison. Prix positif, un anabolisant.
Et qui fait pas le Tour de Flandre, il fait pas Paris-Roubaix.
Non. Ouais. Par contre, il s'arrange avec sa fédé qui va, elle, donner la sanction. Je vais revenir au Tour Slovénie parce qu'on va s'arranger finalement. C'était un an, tu prends que trois mois. Vous croyez que derrière, on parle de Pogacar comme on parle de Sinner aujourd'hui? Mais non, never. Pogacar, il est raillé. Il est fini. On le fracasse, le coureur cycliste. Et là, le Sinner, moi, j'ai rien contre lui. Mais ce que je te dis juste, c'est qu'on peut pas. Je ne peux pas, moi, ancien sportif, antidopage à 200%, dire oui, il mérite son rôle, son statut.
Mais c'est quoi? Mais non, du coup, il est sali à tout jamais, Sinner.
Il prend un an de suspension comme la sanction devait être.
Ouais, mais il a pas eu. Du coup, pour toi,
parce qu'il s'est arrangé. C'est parce qu'il s'est arrangé avec les petits arrangements tennistiques. Il est quand même. Il a viré son prépa, qui est revenu depuis. Il a repris au tournoi de Rome, chez lui, quand même. Non mais la fête elle est belle si tu veux c'est et pour moi tout ça est un peu tronqué donc le goût du numéro 1 mondial.
Je pense que le retour du kiné ça c'est fort.
Oui, il a réembauché son prépa physique qui était donc impliqué dans ce
monde. Je suis désolé.
Il lui a dit lave-toi les mains avant de me faire une piqûre.
Non mais tu vois ce que tu ressens. Maintenant rappelle-moi le taux auquel il était pris.
Ouais. Comme Contador,
c'est tout à fait.
On sait depuis que le petit taux n'est pas. On sait depuis Eric que le petit taux ne signifie pas forcément petit dopage.
Il a le droit de se défendre, tu en conviens.
Mais d'accord, il n'est pas très bien défendu. Aujourd'hui, on me pose la question à moi, est-ce que je trouve qu'il le mérite?
Pour la symbolique.
Un joueur qui a été suspendu pour dopage, quoi qu'il arrive. Petit taux, arrangement par arrangement, ne mérite pas d'être numéro un mondial.
Pour la symbolique et pour les affrontements entre les deux hommes, je pense qu'Alcaraz mériterait.
On parle pas de la fléchette,
plus
on parle de tennis.
Je vais vous proposer un cas qui va vous réconcilier.
Non.
Un cas d'école. Sinner gagne Paris, gagne le Masters, en finale, il bat Alcaraz. Qui sera numéro un mondial?
C'est Alcaraz.
C'est Alcaraz.
Ouais, parce qu'il prendra pas au parcours de l'an dernier.
Voilà.
Non, mais moi ça me gêne de le voir dans les finales, quoi.
Moi, ce qui me gêne, il suffit qu'Alcaraz aille en finale
Il suffit qu'Alcaraz gagne trois matchs à Turin et il sécurisera la place.
Mais Bennett, dans le monde du tennis, on en parle de tout ça, là, de Sinner, on est passé à autre chose.
Zéro. Non, mais moi, je m'attendais, tu sais, à son retour à Roland Garros.
C'est là où il y a deux poids, deux mesures. Nous, dans le vélo.
Attendez,
hier, j'étais à la Défense Arena et je me suis fait la remarque à l'entrée sur le terrain.
Extraordinaire l'entrée sur le terrain.
L'entrée sur le terrain extraordinaire, c'est lui qui rentre en dernier parce que c'est numéro 2 mondial, etc. Donc c'est toujours la hiérarchie qui est respectée. Alors on n'est pas encore au niveau des Nadal Federer où là c'était vraiment des rockstars. J'imagine, Nadal ou Federer dans cette
enceinte-là.
Mais il dégage quand même quelque chose.
Tu le vois jouer en vrai une fois, Christophe.
Je te jure.
Tu le vois jouer.
Non, mais même quand il rentre sur le terrain, il impose un peu. La salle, elle est conquise.
Mais toi, ça te gêne un peu?
Non, ça me gêne pas, mais je me suis fait la remarque. Je me suis fait la réflexion.
Ben Sampong avait beaucoup aussi de charisme.
Je dis les gens.
Non,
mais je
ne peux
pas comparer Sinner à un truc.
Mais Bennett, tu dis, vous n'en parlez plus dans le tennis, c'est-à-dire que vous avez évacué.
Moi, je ne suis pas trop sur le circuit. Quotidien.
Ouais, tu veux pas trop te mouiller, quoi.
Non. Mais j'ai l'impression, quand j'en parle quand je vois les
autres. C'est passé.
Bien sûr. Je pense qu'ils en parlent pas.
C'est là où le deux poids deux mesures par rapport à d'autres
sports
est incroyable.
Nous, Pogacar
n'a jamais été pris.
Ils ont des doutes sur. Comment dire? C'est pas qu'ils ont des doutes, mais ils ont des. Ils sont plus du côté d'Eric sur. Ok, il y avait un taux très faible. Comment ça se fait? Parce que ça peut nous arriver. Si ça lui arrive à lui être un taux très faible, il y a des mecs propres qui disent, attends, le moindre truc, je peux me faire contaminer avec les poudres, avec les trucs qu'on achète, etc.
Et arrêtez donc, avec le faible
donc
taux.
Donc alors,
les gars.
À ce moment-là,
les premiers cas
avec
de faible
l'argumentation
taux,
que vous avancez.
Alberto Contador, c'était un très faible taux. On sait pourquoi. Aujourd'hui,
alors qu'il change
on a
les
su
règlements.
Avec l'affaire Fuentes, pourquoi il y avait un faible taux? Un faible taux. L'explication qu'il a donnée, alors certes recevable,
il
peut y avoir aussi autre chose.
Donc ça c'est
je peux pas le prouver.
Et
j'ai des fortes suspicions, donc ça me gêne que ce gars-là joue encore.
En revanche, le deuxième truc où ils sont, où là c'est plus s'ils penchent du côté de Jérôme, c'est la défense, l'opacité,
La communication, l'accord,
il est suspendu sur une période qui l'arrange.
Exactement.
Bien sûr,
La suspension très courte et la période de suspension, c'est plutôt là-dessus où les joueurs actuels sont un petit peu énervés. Voilà.
Non, mais, oui, puis en plus, tu sais, ça pourrait faire un vrai débat des vestiaires, ça. Il y a une espèce d'opacité quand tu es. Nous, dans le cyclisme, les Valverde et compagnie se sont fait choper. Ils reviennent, les joueurs, tous les coureurs sur la ligne. Ah, c'est cool que tu sois revenu. Macache, en fait, le mec, il t'a menti, il t'a volé, il t'a trompé. Tu reviens. Mais c'est vrai. C'est pas les joueurs. Regarde les réactions. Ah ben, après la sanction et l'arrangement.
Jérôme,
ils ont tous tiré à boulet rouge. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il arrive dans le vestiaire.
Jérôme, ce que tu dis est intéressant. Je me rappelle très bien que quand des coureurs revenaient de suspension dans le cyclisme, à être allé interroger les directeurs sportifs en disant, ah, votre coureur, quand même, il est toujours un peu sali. La réponse, c'était, non, mais attendez, quand on vous retire le permis, à un moment donné, vous le récupérez, par exemple. Donc, on va pas être sali à vie pour ce qu'il a fait. Il a payé. Il a
payé. Je parle du fait de l'accueil des, ça viendra. La question parce que c'était
Valverde,
et vous les joueurs. Mais en fait, les coureurs, c'est pareil. Ils oublient tout. C'est pas un milieu où tu retiens et tu en veux. C'est le même cirque pour tout le monde.
Je pense pas faire une erreur en disant que les taux d'anabolisants qui ont été trouvés chez Sinner sont si infimes que ça n'augmente pas ça améliore pas la performance. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc ça veut dire que il est certainement dopé à son insu. Moi, ce qui m'embête, c'est que puisqu'il y a suspension, eh bien normalement, il peut pas être numéro un ou alors modifier les règlements.
Donc tu aurais aimé qu'après cette saison-là, il ne puisse pas finir numéro 1.
Pour moi,
oui. Une saison de suspension.
Dans une saison où il est suspendu, non.
Mais Christophe, c'est quoi? Il aura cette étiquette toute sa vie, Sinner?
Bah, j'ai peur qu'il l'ait.
Tant que Jérôme Pinot sera dans mon gueule, oui.
Non, le monde du tennis essaye évidemment de mettre ça sous le tapis, mais c'est vrai que quand tu as fait partie d'un sport qui a été montré du doigt pendant des siècles et qui continue d'être montré du doigt alors qu'il n'y a pas de contrôle positif, je comprends que ça puisse frustrer Jérôme et les gens du vélo ou de l'athlétisme ou de la natation de voir que dans le tennis il y a des petits arrangements entre amis. Voilà,
l'histoire c'est la même que Alberto Contador, clambutérol, petit taux, faible taux. Contador, on a su derrière ce qu'il avait fait, c'était transfusion sanguine. Le mec, il a été quand même d'un coup. C'était plus le même topo, quoi.
Même Georges Quirino, qui était quand même le fan absolu. Ah,
la défense de Contador, c'était j'ai mangé une viande en Espagne. En Espagne.
Là, on a que
Florent, au 32-16. Salut Florent.
Salut les gars.
Sinner mérite d'être numéro 1 mondial ou toi aussi tu trouves que tout ce qui s'est passé cette année l'entache?
Ah non, pas du tout, mérite même pas. Ah non. Les tricheurs devraient être au vestiaire.
Ah oui, bon, voilà. Donc c'est quoi, on pourra jamais l'apprécier à son niveau et c'est quoi, ça va lui coller à la peau pour toi?
Ah bah oui, de toute façon, moi je vais prendre un parallèle avec un joueur qui est dans mon club à l'heure actuelle, c'est Paul Pogba. Bon, voilà.
Monaco.
On lui a pas fait de cadeau. Bah, donc pourquoi lui on l'a fait?
C'est vrai, Pogba qui a été suspendu longtemps.
C'est en plus, genre, tu dis, on peut pas lui pardonner, évidemment, mais il faut une vraie sanction. Mais là, il est numéro 1 mondial la même année avec l'arrangement.
Non, mais le verre est dans le fruit, ça veut dire parce qu'il va pas être re-sanctionné.
Bah non.
Florence, qu'est-ce que
c'est? Moi, c'est ce fameux arrangement qui me tue. Bah comme par hasard, on le remet à Rome, normal, devant chez lui.
Ouais, c'est vrai,
je comprends pas.
C'était comme un héros quand il arrive à Rome.
Eric Salio, tu y étais.
C'était fabuleux.
C'est ça.
Il avait vaincu le monde entier et il revenait en triomphateur.
Je comprends l'auditeur et je pense que quand il y a eu cet arrangement, ils se sont dit bon, il va être écarté 3 mois, on est tranquille, il sera pas numéro mondial à la fin de l'année. Il se trouve que. Parce que. On écarte un peu.
Il y a des
le...
cérémonies à la fin, Eric.
Bien sûr, au Masters, il va recevoir le superbe trophée. Mais on oublie quand même un truc là-dedans. Vous trouvez pas que Alcaraz, il a eu un peu le boulard dans cette fin de saison, qu'il a cru que ça allait tomber tout seul et que finalement, il s'est peut-être fait harakiri?
Alors, je veux poser une question à Julien, parce que statut de numéro 1 mondial, qu'est-ce qui est plus important pour un tennisman? C'est de battre son adversaire à plusieurs reprises, mener 4-1 dans la saison, remporter Roland-Garros, remporter l'US Open ou être numéro 1 mondial? Qu'est-ce qui est plus important?
Le Grand Chelem.
Bah oui.
C'est Wimbledon, Roland-Garros, les grands
chelems. Là, il sort 2-2, Christophe.
Donc là, ils sont à 2-2. Après, ouais, elle est face à face dans l'année. C'est une petite guerre interne. Mais Alcaraz, s'il est mené 5-0, mais qu'à la fin de l'année, contre Sinner, mais à la fin de l'année, il est numéro 1 mondial, il préfère être numéro 1 mondial. Mmh. Parce que le statut numéro 1 mondial.
Ça t'octroie quoi? C'est juste honorifique?
Rien, c'est honorifique.
D'accord.
Mais moi, je trouve un peu d'oseille.
Vas-y, dis-moi ce que c'est, un peu d'oseille pour un tennisman.
Mais énorme. Je pense, moi, je me rends plus compte, parce que je ne sais pas du tout. Mais les primes des.
Les bonus,
les bonus des.
C'est rien par rapport à ce qu'ils vont toucher quand ils sont en
Arabie Saoudite. Ça doit être pareil.
Pour prendre la suite de ce qu'a dit Eric, il y a quelques instants.
Mettre au tennis quand même, au tennis de table, toi.
Et Alcaraz, est-ce qu'il n'a pas pris un peu le boulard? Alcaraz, dans sa saison, il est quand même un peu moins régulier sur certains tournois. Il y a des Masters 1000 où il part au deuxième tour, à Indian Wells, à Miami, là, ici, à Paris.
C'est pas
Sinner.
Oui, mais il a moins ce côté robot.
Oui, mais Sinner, à chaque fois. Oui, mais parce qu'on parle du mérite, Sinner, à chaque fois qu'il vient sur un tournoi, il va en finale.
Ouais.
Ou il gagne. Oui. Minimum
c'est
cette
le
année.
Robot.
Non, mais c'est
robot
ça, c'est régularité aussi qui peut impliquer le mérite. Ah, mais au mérite de Sinner.
T'as raison, pour le coup, sur le mérite sportif.
Plus régulier que Alcaraz.
On peut pas se permettre de passer au travers sur certains tournois, de venir en tongs, comme tu dis. Évidemment qu'au mérite sportif, c'est plus de la faute d'Alcaraz qui passe à travers certains tournois. C'est la raison pour laquelle il y a encore une course entre les deux. Mais encore une fois, je pense que le deuxième ne devrait même pas être dans la course.
Ce qui est fou, c'est qu'Alcaraz, quand même, avec deux grands chelems et trois Masters 1000, il soit pas détaché.
Oui. C'est ça qui est dingue.
Merci Florent de nous avoir rappelé au 32-16. Eric, finale à 15h contre 15h, Félix Auger-Aliassime. Sinner, grand favori.
Auger-Aliassime va gagner cette finale, comme ça il aura son billet pour Turin.
Ah ouais, t'es comme ça, toi.
Bah, d'accord. Pourquoi pas.
Petit
donc là, tu nous annonces la défaite de Sinner.
Tu nous fais une
défaite
de Sinner.
À 15h, on va vérifier ça tout à l'heure. Tiens, le résultat du sondage. Sinner mérite-t-il plus qu'Alcaraz d'être numéro 1 mondial? Vous dites non à 59%. Il y a un petit point perdu quand même pendant la durée débat.
Je pense que c'est mon dernier argument. Dès qu'il y a des spécialistes de tennis, vous ne faites pas le poids.
Dans quelques instants, on va prendre la mer, les amis. On va aller au milieu de l'Atlantique retrouver Armel Lecléache sur Banque Populaire 11 sur son ultime en pleine transat Café L'Or. Il sera avec nous dans les grandes gueules du sport. Je vous rappelle, il partage l'ultime avec Sébastien Josse. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport avec Jérôme Pinault, Pascal Duprat, Christophe Cessieux et Julien Benneteau. Ça a beaucoup fait réagir sur le WhatsApp, là, le petit débat sur Yannick Sinner, ceux qui disent qu'il mérite, ceux qui disent qu'il ne mérite pas. Il y a beaucoup de questions de dopage quand même. Hein, ça vous a beaucoup marqué, les auditeurs des grandes gueules du sport. Dans un instant, les GG remontent le temps. Tiens, il y a 26 ans, on va se remémorer la plus belle victoire de l'histoire du 15 de France. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Les retrouvailles, avant les retrouver avec les box, on va repenser à la victoire contre les Blacks en 99. La France avait battu John Alomou, tout simplement. En fin d'émission, participez au jeu avec vos GG. Vous pouvez gagner un smartphone aujourd'hui Stellar X5 édition Chamonix Mont Blanc. Pour cela, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Tout de suite, les amis, je vous propose que l'on prenne le large. On va aller au milieu de l'océan Atlantique. Il est sur son ultime Banque Populaire 11 en pleine transat Café L'Or avec son coéquipier Sébastien Josse. C'est Armel Lecléache qui est en direct avec nous. Salut Armel.
Ouais, salut.
Bonjour. Oh là, bah là c'est le chantier là, Armel, on t'entend au loin. Raconte-nous, raconte-nous c'est quoi la situation là. Tu es où et c'est quoi les conditions?
Ah bah là on est dans le poteau noir, en plein dans des gros grains.
Oula. Ah oui, on entend, ça pleut là.
Beaucoup là depuis une demi-heure là.
Ouais.
Bon, c'est déluge et malheureusement il n'y a pas de vent.
C'est ce que j'allais demander, c'est ça le plus important.
Malheureusement, il n'y a pas de vent. On rappelle le poteau noir, c'est on arrive à un endroit entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, où les vents convergent. Non, mais en vrai, là, quand ça se déclare comme ça, dis-nous, là, parce que c'est vrai qu'on entend la tempête derrière toi. C'est quoi, il faut réagir rapidement sur le bateau? Ça change quelque chose quand la tempête arrive?
Ouais, bah écoute, on essaie de trouver la bonne gestion de voile, c'est-à-dire de. Le vent, il peut rentrer d'un coup, passer de 0 à 25 nœuds, 30 nœuds, voire des fois dans les gros grains. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'avec nos multicoques géants, on prend vite de la puissance et le risque, c'est de se faire un peu emporter et ça devient dangereux. Être vigilant, là, dès qu'il pleut, sous le grain, on voit plus grand-chose. la visibilité est nulle. Et on espère que le vent ne va pas rentrer d'un coup, même si on espère qu'il va rentrer un peu quand même pour avancer, parce que là, il y a, au moment où je te parle, il y a deux nœuds de vent, donc c'est vraiment, le bateau, il est quasiment arrêté.
Il paraît que les marins redoutent plus le poteau noir, finalement, que les mers du sud, Armel, est-ce que c'est ton cas?
Ouais, bah, c'est vrai que c'est une zone en fait où on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer, c'est très aléatoire, les modèles météo, ils ont vraiment du mal à donner des prévisions fiables. Donc on regarde beaucoup les nuages, on lit beaucoup on essaie de décortiquer les quatre satellites, mais c'est difficile de se placer forcément. Les nuages, ils évoluent très vite dans la journée en fonction des températures. Tu vois, ce matin, il y a encore 3 heures, il n'y avait pas de nuages. Et puis là, en une heure, c'est devenu tout gris, tout noir. Et il pleut partout là.
On est avec Armel Lecléas sur son ultime Banque Populaire 11 que tu partages avec Sébastien Josse en pleine Transat Café L'Or. C'est impressionnant franchement là d'entendre ça derrière toi. Pascal Duprat, tu as une question pour Armel.
Oui, bonjour Armel. Moi je voudrais te parler de promiscuité à bord. Est-ce que depuis le départ du Havre, tu t'es déjà pris le chou avec Sébastien?
Ah, écoute, juste sur une tablette de chocolat qui m'avait peut-être piqué. Mais sinon, le reste, tout va bien.
T'as pas eu envie de le jeter, le passer par-dessus bord jusqu'à présent.
Le groupe Libia, attention, pas ce genre de choses. Julien Beneteau, tu veux dire un mot à Armel?
Oui, non, je voulais juste savoir, puisque là, c'est une zone géographique particulière, est-ce qu'il y a les autres concurrents de votre catégorie qui sont aussi.
Ils sont passés déjà, ils sont quatrième actuellement avec Armel. Hein.
Ah oui, ils sont passés dans le poteau noir, vous êtes d'accord. Vous les suivez, enfin vous essayez de. Est-ce que vous vous servez justement de leur passage dans le poteau noir pour voir quelle est la meilleure trajectoire possible?
Ouais, ça peut aider, ouais, bien sûr, on va voir un peu comment ça évolue leur vitesse. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard en début de course parce qu'on a eu une avarie technique. On a dû s'arrêter à Lorient. La première nuit pour pouvoir réparer. Malheureusement, depuis ce retard, on le paye un peu. On est toujours un peu après les autres au niveau météo. On était bien revenu au début d'entrée de poteau noir et puis là, l'élastique est en train de se tirer par devant. Donc bah, il faut prendre son mal en patience. C'est sûr que pour l'instant, on subit un petit peu, mais on va espérer qu'il y a encore beaucoup de chemin là jusqu'en Martinique. On doit passer. L'île San Pedro là dans quelques heures et on espère qu'après ça va pouvoir permettre de revenir.
Ouais, on rappelle que vous avez eu un problème de safran au départ, vous avez dû faire escale à Lorient pendant 6 heures, c'est pour ça que vous faites la course pour revenir sur la tête. Jérôme, ouais, une question pour toi.
D'autant qu'Armel, on le sait, vous êtes revenu tout près à l'approche du poteau noir, il y a, comme tu le dis, ça refile devant. Mais est-ce que vous avez encore évidemment la victoire en tête? Parce qu'on sait que votre ultime est ultra performant et que finalement l'écart n'est pas rédhibitoire. Il y a encore une vraie chance de victoire pour vous deux là.
Ouais, alors c'est sûr que là pour l'instant on n'a pas.
J'imagine que là.
C'est un peu compliqué en ce moment parce que l'écart va se tendre vers devant. Donc c'est sûr que. On va compter les points quand on aura récupéré le vent, on l'espère, dans quelques heures, et voir les écarts. Faut pas trop forcément regarder en distance, mais en temps, en nombre d'heures, en fait, de retard par rapport au premier, notamment quand ils vont passer l'île au niveau de l'équateur, la l'île de San Pedro. Et on verra si on, par rapport aux trois bateaux qui sont, si on a une chance encore de revenir sur le grand bord qui va nous amener jusqu'en Martinique. C'est un grand bord de portant. Il va y avoir des options à prendre aussi. C'est pas tout droit.
Ouais.
Donc on espère qu'on aura un peu de réussite.
Vous entendez là le bruit derrière, c'est impressionnant. Hein. On est avec Armel Lecléas sur Banque Populaire 11 en pleine Transat Café L'Or. Il vient de passer le poteau noir, le milieu de l'Atlantique. Il est avec Sébastien Josse. Juste Armel, alors, on explique aux auditeurs, il y a un petit décalage parfois évidemment parce que en plein milieu de l'océan avec Armel. Non mais tu nous expliques un peu les bruits qu'on entend derrière toi. Là, on l'entend comme un moulin à café. Là, tac tac tac. C'est quoi? C'est Sébastien qui bosse aussi derrière. Il y a quoi comme bruit autour de toi? Ah ça a coupé justement, je crois, avec Armel. Évidemment, vous entendez, vous avez vu, il y a une grosse perturbation là où il se trouve.
Il y a un truc qui est incroyable sur ces bateaux-là, c'est le bruit.
On t'a retrouvé. Explique-nous le bruit qu'il y a autour de toi. On entendait, c'est quoi? C'est Sébastien Josse aussi là qui est en train de bosser derrière. Qu'est-ce qui se passe là? On a perdu Armel. Bon, allez. Et ils sont évidemment là en train de bosser dans un moment très important. Mais
c'est incroyable. Quand même, hein. Comme le disait Christophe, moi j'ai eu la chance de monter à bord d'un 50, d'un petit, plus petit que le sien, mais déjà dans un 50, ça va très vite. Et tu crois que dans la coque, les mecs. En fait, ce qui est le plus impressionnant sur ces bateaux, c'est le bruit. Dans la coque full carbone, c'est impressionnant. Tout résonne, ça craque de. T'as, à tout moment, t'as l'impression que tout va se casser. En fait, c'est très très impressionnant.
Ils sont obligés de mettre des boules caisses, ils sont obligés aussi de mettre des casques hein, régulièrement quand ça commence à aller un peu trop vite. C'est des Formule 1 ouais. des mers et ça c'est vraiment le cas.
Je crois qu'on t'a retrouvé Armel, on parle du bruit autour. Ouais. Tu nous expliques le bruit autour là. Qu'est-ce que vous faites?
Bon, ouais, c'est assez bruyant, le bateau en plus, il y a pas mal de houle, donc ça tape un peu dans tous les sens, malgré le peu de vitesse qu'on a. Là on essaie de manœuvrer parce que le vent vient de rentrer un petit peu là, tu vois, en quelques minutes on a touché quelques nœuds de vent, donc voilà, Sébastien à la manœuvre.
Sébastien Josse à la manœuvre derrière aussi. Hein. On a reperdu. Franchement, en vrai, franchement, les navigateurs, moi je me dis à chaque fois, c'est les derniers grands aventuriers du sport. Non, mais Benetz.
Moi j'ai eu la chance de rencontrer, de discuter avec Thomas Coville, qui est sur Sodebo, qui est deuxième là aujourd'hui, qui nous racontait plein d'anecdotes et plein de ses retours d'expérience de ses transats, de ses tours du monde en solitaire. Ils sont pas faits comme nous.
Impressionnant. Bon, on remercie Armel Lecléache hein, sur.
C'est bien de le faire à deux comme ça, au moins il y en a qui peut répondre au téléphone pendant que l'autre fait les.
Je suis en train de me dire, les mecs sont en plein milieu de l'océan là. Ils sont dans la tempête et ils prennent le temps de nous répondre.
A priori, ils prennent la flotte, ils prennent des trombes d'eau sur la tronche, ouais, mais il n'y a pas de trombe. C'est très frustrant. Alors, sens que le marin, il est frustré un peu.
Alors, parfois, il y a certains joueurs qui, juste après un match, me disent j'ai pas envie de parler. Ouais, les gars, allez dans une tempête. Vous allez voir. On souhaite bonne chance à Armel Lecléache là et Sébastien Josse pour sortir de cette séquence. On espère que le vent va les porter vers Fort-de-France, hein, où il y aura l'arrivée de cette transat.
Ouais, j'ai vu, en parlant d'arrivée, ils ont réduit le parcours pour leur classe pour les ultimes, donc ça va peut-être pas les aider. Ils espéraient peut-être pouvoir récupérer un peu leur retard.
Pour respecter un peu plus le délai d'arrivée,
tout le monde doit arriver en même temps.
Exactement.
On salue Johan Richomme qu'on a reçu la semaine dernière. Tu lui as pas porté bonheur. Hein.
Ah, est-ce qu'il y a que moi en fait
Évidemment, c'est toi.
C'était bien parce qu'il n'y a pas de bonheur.
Il est venu, paf, il a pété le bateau. Tous ceux qui sont venus, ils ont pété. On les salue parce que là, ils sont lancés sur leur Imoca à toute berzingue pour essayer de gagner, mais ça va être un peu compliqué. Mais ils ont commencé à remonter quelques participants. Ils sont partis. Le lendemain.
Ah, ils nous écoutent peut-être, hein, d'ailleurs. Chez les ultimes, c'est SVR Lazarty, de Tom Laperche et Franck Camas qui est en tête pour l'instant. Voilà pour la transat qui a fait l'or. On va remettre pied à terre. Ouais, ça m'a fait voyager, moi, cette histoire. Maintenant, on va remonter le temps. On va remonter le temps pour parler de France. All Black en 99, est-ce que c'est pas le plus grand souvenir du 15 de France, en fait, l'anniversaire. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Julien Beneteau et Christophe Cessieux. Tiens, j'ai un message sur le WhatsApp 06 12 424 424, envoyez-nous hein, de Mathieu qui nous dit: oh les gars, laissez-le tranquille Armel Lecléache, il est en pleine mer dans le jus, il faut qu'il avance. Et il était avec nous Armel, on le remercie franchement de partager ces quelques instants pour partager son aventure avec Sébastien Josse. C'est plus qu'une aventure, c'est une course hein, quand même, c'est une compétition, la Transat Café L'Or pour arriver jusqu'à Fort-de-France. Il était en plein milieu de l'Atlantique, le passage du poteau noir. Dans un instant, on va ouvrir le vestiaire des GG. Comment accepter de ne pas être le meilleur? On va vous développer tout ça dans quelques instants. Ça va être très intéressant, je le pense. Mais d'abord, le 15 de France retrouve les box samedi prochain au Stade de France avec un air de revanche après la défaite traumatisante des Bleus en quart de finale de notre Coupe du Monde il y a 2 ans. On en a parlé hier, ça nous fait du mal d'y repenser. Alors ce matin, on va arrêter de ressasser les mauvais souvenirs. C'est ce que je vous propose. On va plutôt se faire du bien parce qu'il y a 26 ans, presque jour pour jour, le 15 de France nous offrait ceci.
Attention le mot. Oh là là, il se balade. L'univers se balade. Proche. Essai néo-zélandais.
C'est un monstre, Christian. C'est un monstre.
Christian Dominici a pris le ballon. Essai français. Essai de Christian Dominici. C'est un génie.
Essai.
Un ballon par-dessus.
Super.
Essai. Oui.
Essai.
Et c'est validé par Monsieur Fleming. Et c'est fini. C'est fini derrière. 43-31. La France est en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match. Quel match.
Ah, il a transmis l'émotion, Christian Jean-Pierre, avec Bernard Laporte au commentaire. C'était sur TF1. C'est peut-être le plus grand exploit de l'histoire du 15 de France. 31 octobre 99, dans un stade de Twickenham électrique. Les Bleus renversent la Nouvelle-Zélande de Jonah Lomu en demi-finale du Mondial. À l'époque, personne ne voit les hommes de Skrela l'emporter. On était mené 17-10 à la mi-temps. Et on va renverser le match dans une deuxième période d'anthologie pour finalement s'imposer 43-31. Incroyable remontada avec notamment un essai légendaire. Vous l'avez entendu, le Dominici. La France perdra ensuite la finale face à l'Australie. Avant d'en parler, les amis, j'ai plein de messages sur le WhatsApp. 06 12 424 424. Sylvain qui nous dit: émotion incroyable, j'entends encore dans mes oreilles les commentaires et l'incroyable Dominici. J'ai également Robert qui me dit: j'étais au match en 99, après le match tous les Anglais qui nous voyaient se féliciter les supporters français, c'était unique, on était les rois de Londres. Vos souvenirs, Christophe,
je commentais ce match pour une autre radio.
Christophe,
pour une autre radio, et avec comme consultant.
Il était déjà aux deux tiers de sa carrière.
Comme un mythe, le mythe des consultants, puisque j'étais avec Pierre Albaladejo. Et je peux vous dire que quand tu commentes un match comme ça, qui restait dans toutes les mémoires, avec un tel monsieur,
une voix,
c'était extraordinaire. Je me rappelle de l'ambiance qu'il y avait. On a entendu Christian et Bernard Laporte, qui étaient pas loin de nous, à la fin du match. On était tellement euphorique, toutes les radios, toutes les télé françaises, qu'on s'est changé les consultants. On dit: tiens, moi je vais interroger Daniel Herrero, tiens, filme-moi Bala. Et tout le monde, j'étais
l'Union nationale
debout sur le pupitre à la fin du match en train de commenter.
T'as pas besoin du demi-finale de Coupe du Monde pour le faire.
C'était complètement dingue l'ambiance. L'auditeur disait les Anglais qui félicitaient les Français, mais Twickenham chantait la Marseillaise. C'est quand même le temple du rugby anglais, le temple du Swing Low Sweet Chariot, et bien ils chantaient la Marseillaise. Les British chantaient la Marseillaise, messieurs, dames, ce jour-là. C'était complètement dingue.
C'est la seule fois.
Et je pense que ça leur a suffi. Mais il y avait. C'est vraiment un moment mythique. Et puis c'est surtout ça. À la mi-temps, on est mené, on se dit: bon, on va en prendre 30 et puis on va rentrer à la maison. La Coupe du Monde, jusque-là, avait été un peu moyennasse pour les Français. Et d'un seul coup, cette deuxième période complètement dingue. Christophe Lamaison qui passe tout, les essais, Bernard de salle, Dominici, Lomu qui n'existe pas.
T'as les étoiles dans les yeux, Christophe.
Pour moi, tu sais quoi ? C'est mon plus grand souvenir de commentateur. Peut-être avec des moments dingues aussi sur le Tour de France, notamment l'étape. Mais là, c'était un commentaire un peu triste, l'étape où Thibaut Pinot s'arrête le Tour de France, la tempête. C'est un moment qui. Voilà, c'était il y a combien
86 ans. Pascal,
je m'en souviens comme c'était.
Oui. T'en souviens
Oui, j'étais. Mais en fait, j'ai toujours aimé le rugby. Et je l'ai adoré à partir de ce moment-là, voilà, en tant que téléspectateur. D'autant que la France avait fini, je crois, dernier du tournoi des cinq nations à l'époque. Mmh. Et qu'ils avaient pris une branlée contre, quelques mois avant, contre les All Blacks, je crois.
Oui, à Wellington. Ah oui, j'y étais aussi. On avait pris une tôle terrible contre les All Blacks. Et on disait que, justement, on n'existerait pas dans cette Coupe du Monde.
Non, mais c'est... hier, donc, en regardant le résumé, de ce match-là, eh bien la nostalgie m'a gagné, parce que les deux numéros 11 qui ont été géniaux pendant ce match-là, Lomu pour les Blacks et Dominici pour la France, avec les deux numéros 11, donc tous les deux malheureusement sont plus là.
C'est à l'époque aussi, moi le souvenir que j'ai après. c'est la première fois que je suis en admiration et impressionné par un joueur. Ce jour-là, pour moi, c'était la France a battu Jonah Lomu, qu'on pensait intouchable. C'était un athlète incroyable. Et sur ce match-là, les Français ont réussi
comme si les Bleus du foot de Platini avaient battu l'Argentine de Maradona.
C'est ça.
Ou le Brésil de Pelé.
Et c'est en plus avec un personnage central au sein de cette équipe-là, qui est Lomu à l'époque. T'as juste
Lomu, c'est la première star mondiale de ce jeu.
Et c'est le regret qu'on peut avoir, c'est qu'on peut pas écouter ses récits aujourd'hui. On adorerait écouter, parce que on sait que c'est un homme qui en plus avait beaucoup d'humilité, mais qui faisait peur à tout le monde. C'était un athlète hors du commun, quel que soit le sport dans lequel il aurait excellé, le rugby encore plus, ce sport de contact. C'était l'un des premiers joueurs, pour avoir discuté avec les gars, où tu te dis, mais lui, faut pas qu'on le prenne plein fer, parce qu'il va nous faire mal.
Quoi. Bah, tout le monde avait encore en mémoire ce qui s'était passé 4 ans avant, lors d'une 95. Précédente Coupe du Monde, où il marche sur les Anglais.
Ouais. Il marche sur le visage.
C'est Obélix avec les
Gaulois. Bennett, c'est le genre de match dont tu te souviens où tu étais.
Ouais, moi j'étais à l'INSEP, je me souviens, avec un surveillant qui venait du basket. On était dans une petite salle télé. C'est le genre d'événement sportif où tu te souviens où tu étais quand tu l'as vécu, quand tu l'as regardé. Ce qui est marrant, on se disait ça en antenne, c'est que par contre, on a très très peu de souvenirs de la finale.
Pas de souvenirs.
Perdu moi, face à l'Australie.
Parce qu'on a perdu l'Australie,
Millennium de Cardiff. Par exemple, j'ai aucun souvenir. Alors que oui, la demi, il y a beaucoup d'actions qui reviennent en tête. Le fait que la maison soit sur un nuage ce jour-là, les rebonds favorables pour Dominici, Dourde qui va aplatir, enfin, il y a plein de choses.
En revanche, il y a un truc, un drôle de phénomène qui s'est passé après cette demi-finale, donc vaincre les All Blacks. La France s'est emballée, je crois que c'est la première fois vraiment
pour le rugby.
Que la France s'emballait autant pour Pascal, le rugby. Moi, je travaillais dans une autre rédaction. Ouais. D'un seul coup, ça faisait la une de tous les journaux du matin pendant une semaine. Mais on revenait sur l'exploit, on parlait de la finale. C'était dingue. Dans le 20h de TF1, c'était l'ouverture des journaux.
On est 15 mois après la Coupe du Monde 98 de foot où la France a gagné.
Exactement.
Et donc du coup, il y a un vrai, il y a un élan.
On a envie de
regoûter au même plaisir. Exactement.
Et en fait, là où pour la France, pour le foot, à partir des huitièmes, quand on bat le Paraguay au but en or, ça sort dans la rue, ça se rassemble, etc. Là, ça a été un peu plus tard. C'est la demi-finale qui a déclenché ça, mais quand ils ont gagné le Black, oui, il y avait cette euphorie nationale.
Et figurez-vous que TF1 avait voulu faire comme les yeux dans les bleus. Mathieu Dupont, journaliste de TF1, caméraman, était au sein de l'équipe de France. Et évidemment, quand ils ont gagné la demi-finale, ils se sont dit, oh là là, ça va être génial. J'ai perdu la finale et puis il n'y a pas eu photo en finale face à l'Australie.
Jérôme, tu voulais rajouter
un mot? Non, je disais aussi que ce match-là et cette Coupe du Monde-là, alors il y a les grands passionnés de rugby, ceux qui connaissent bien, mais dans l'inconscient de certaines personnes, ils ont été champions du monde cette année-là.
Ouais, je suis d'accord.
En quelle année la France a gagné la Coupe du Monde de rugby? En 99.
Ouais, presque.
De toute façon, ce match-là a lancé aussi une ère nouvelle pour l'équipe de France. On avait battu les Blacks, de l'OMU. On était de nouveau dans quelque chose de très euphorique. C'était de redevenu possible. Et clairement.
Le fameux fossé entre le Nord et le Sud était en train de se combler.
Pascal, c'est un peu ça. C'est le genre de performance qui explose un plafond de verre, en fait. C'est-à-dire que la France, après ça, est devenue une nation différente, finalement.
Potentiellement championne du monde.
Pascal.
Avec le potentiel, c'était possible, rendu possible par ce match-là, il me semble. Moi, j'ai eu la chance de partager un verre un jour avec Dominici. Et comment dire, je vais parler de ce rebond. Parce que moi, ce rebond, il est mythique. Moi qui suis footballeur, on n'a jamais des rebonds comme ça avec nos ballons. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, au moment, je me souviens, on espère que, et on le voit courir, prendre de l'élan à pleine vitesse, on espère que le rebond va lui être favorable. Et il passe devant le Black et il va marquer. C'était un moment suspendu pour moi.
Un moment suspendu, effectivement, cette victoire des Bleus en 99, donc face aux Blacks. Ce que je vous propose, si vous avez envie de poursuivre dans cette nostalgie-là, c'est le super podcast de Nicolas Jamin, Panthéon, sur toutes les plateformes RMC Sport, Panthéon sur John Alomou et sur Christophe Dominici, justement, pour revenir sur les histoires tragiques, mais aussi magnifiques de ces deux garçons dans l'histoire du rugby. Christophe,
dans quelques jours, on commémorera les 5 ans de la disparition de Christo Dominici, c'était un 24 novembre, et on a une pensée pour Domi, évidemment, l'artiste.
Une grosse pensée pour Christophe Dominici, évidemment, alors qu'on s'est remémoré ce magnifique souvenir de France All Black 99. Les amis, dans quelques instants, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre la porte du vestiaire. Bah tiens, justement, avant de battre les Blacks, on pensait pas du tout qu'on était les meilleurs du monde. Comment accepter de ne pas être le meilleur? C'est la question qu'on va se poser. Alors que Egan Bernal, le cycliste, a dit que Pogacar les faisait parfois passer pour des nuls. On va parler de tout ça à travers vos expériences. À tout de suite sur RMC dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.